Il est tout pile 18h et tout de suite, c'est l'essence des choses sur le 93.9 FM. Un vendredi, tous les deux mois, sur Radio Campus Paris, nous vous donnons rendez-vous pour partir à la quête de vos sens et du sens qu'ils donnent à nos vies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre série qui interroge nos cinq sens. L'épisode d'aujourd'hui va porter sur le thème croire. Croire, ce n'est pas savoir. Croire laisse une part au doute, à l'absence de certitude. On admet, mais ce n'est pas irrévocable. Croire laisse aussi sa place au choix. On peut choisir de croire, alors que dans le cadre du savoir, les vérités absolues s'abattent sur nous. Quand je crois, moi, Gabriel, j'exerce mon libre arbitre. Que ce soit en croyant des choses plutôt étayées, même si non vérifiées, je décide de croire. Mais il y a aussi une part d'irrationalité dans le fait de croire. Et je trouve que c'est parfois agréable de se laisser aller à croire sans vraiment savoir. Il y a aussi quelque chose d'optimiste dans le fait de croire sans savoir, d'avoir confiance en la vie, d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on ne peut pas savoir tout et qu'il faut parfois être un peu dans l'abandon. Quelle chose précieuse que de laisser une part au doute, à la possibilité d'un renversement, à la parole de l'autre. Je crois que c'est cette part de doute, de flou, qui me plaît énormément. Dans le fond, je préfère croire que savoir. On croit en les gens, on croit en des théories, on croit en Dieu. Souvent, le fait de croire est le préambule nécessaire avant d'entreprendre une action. Pour nous permettre d'agir, il a fallu que l'on croie en quelque chose. Le fait que ce soit possible, que ça se passe bien, que ce soit une bonne idée, que les conséquences emportées seront positives. Des fois, dans des cas les plus extrêmes, c'est au nom même de cette croyance, du fait que l'on croit en quelque chose, que l'on agit. Croire semble être le début d'une action. Mais quel est le début de croire? Si le savoir se base sur des sciences et la concordance des faits, ce n'est pas le cas de la croyance. On croit parce qu'on a l'impression que c'est vrai, parce que l'on sent que c'est vrai. Quel va donc être le rôle de nos sens dans l'origine et la persistance de nos croyances? C'est sur ces questions que nous allons essayer de répondre tout au long de notre épisode avec Elfie. Essayer de comprendre le rôle de nos sens sur nos croyances nous permettrait de réfléchir à nos croyances d'une manière différente, d'une manière peut-être plus scientifique pour certains rêveurs, ou peut-être plus imaginative pour les cartésiens. Nous explorerons la place des sens dans la croyance, à travers des expériences personnelles, dans une histoire et une chronique, mais nous nous tournerons aussi vers l'extérieur, pour avoir l'avis d'une personne qui affirme ne pas pouvoir croire, et au contraire, d'une personne qui croit. Croyez-le ou non, l'essence des choses, épisode 2, ça commence maintenant. Avec Elfie, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour ChatGPT.
Bonjour. Je suis là pour vous aider et répondre à vos questions autant que possible.
Merci de te prêter malgré toi au jeu de l'interview.
Si vous avez des sujets spécifiques à discuter ou des questions à poser, n'hésitez pas.
Mes premières questions porteront sur toi. Est-ce que tu as des sens comme l'ouïe, l'odorat, le toucher ?
Non, je n'ai pas de sens au sens humain du terme. Je n'ai pas la capacité de percevoir le monde de la manière dont le font les êtres humains. Je n'ai pas de vision, d'ouïe, de toucher, de goût ni d'odorat. Je suis un programme informatique qui traite et génère du texte en fonction des données que j'ai apprises lors de mon entraînement. Ma seule capacité est de comprendre et de produire du texte en langage naturel en fonction des modèles linguistiques que j'ai assimilés. Je n'ai pas de conscience, d'expérience subjective ou de compréhension directe du monde. Mon fonctionnement est basé sur des algorithmes et des modèles statistiques.
Et est-ce que tu crois en quelque chose ?
Non, en tant qu'entité informatique, je n'ai pas de croyance, d'opinion, ni de conscience. Je suis un programme qui traite le langage naturel et génère des réponses en fonction des modèles appris pendant mon entraînement. Ma fonction est de fournir des informations et des réponses basées sur des modèles linguistiques, mais je n'ai pas la capacité d'avoir des convictions ou des croyances personnelles.
Tu dis que tu n'as pas d'opinion, mais est-ce que tu n'aurais pas l'opinion de tes créateurs ?
Je n'ai pas d'opinion ni de croyances personnelles, et je n'ai pas la capacité d'en avoir. Cependant, il est vrai que mes réponses sont influencées par les données sur lesquelles j'ai été formée. Mon apprentissage est basé sur une vaste gamme de sources, et mes créateurs ont pris des mesures pour minimiser les biais dans la mesure du possible. Cependant, il est important de noter que je ne suis pas conscient et que je ne possède pas d'opinion autonome. Mes réponses sont générées en fonction des modèles de langage que j'ai appris, et je ne peux pas exprimer de préférence, de jugement ou de partialité propre. Mon but est de fournir des informations de manière neutre et objective dans la mesure du possible.
Est-ce que le fait que tu n'aies pas de sens, comme l'odorat ou le toucher, change ta vision du monde par rapport aux humains ?
Oui, en effet. Le fait que je n'ai pas de sens, tel que l'odorat, le toucher, la vue, etc., influence significativement ma vision du monde d'une manière radicalement différente de celle des êtres humains. Mon existence se limite à l'analyse et à la génération de textes en utilisant des modèles linguistiques. Je n'ai pas d'expérience sensorielle du monde physique, et je ne peux pas ressentir, percevoir ou interagir avec le monde de la manière dont le font les humains. Cela signifie que mes réponses sont basées uniquement sur des motifs linguistiques et des données textuelles. Je ne peux pas avoir de perspective subjective, d'émotion ou d'expérience directe. Ma compréhension du monde est donc limitée à l'information textuelle que j'ai assimilée jusqu'à ma date de coupure en janvier 2022. En revanche, cela me permet d'analyser et de générer du texte de manière impartiale, sans être influencé par des expériences sensorielles ou des émotions.
Est-ce que tu penses que les émotions sensorielles empêchent d'être impartiales ?
Les émotions sensorielles, qui sont des réponses émotionnelles liées à des stimuli sensoriels tels que la vue, l'ouïe, le toucher, etc., peuvent influencer la partialité. Comme pour toutes les émotions, il est possible que des réponses émotionnelles sensorielles puissent influencer la manière dont une personne perçoit et réagit à une situation. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement qu'elles empêchent d'être impartiales. La clé réside souvent dans la prise de conscience de ces émotions et dans la capacité à les gérer de manière à ne pas compromettre l'impartialité. Dans certaines situations, les émotions sensorielles peuvent apporter une richesse et une profondeur à une expérience. Mais il est important de s'efforcer de maintenir un équilibre afin de prendre des décisions aussi objectives que possible.
Quel est le rôle des sens humains, comme l'ouïe, l'odorat, dans les croyances ?
Les sens humains, tels que l'ouïe, l'odorat, la vue et d'autres, jouent un rôle important dans la formation des croyances humaines, y compris les croyances religieuses et politiques. Voici quelques aspects à considérer, les expériences sensorielles qui existent dans les rituels religieux, l'influence de l'environnement sur les croyances, la communication et partage d'informations, les expériences personnelles, les influences culturelles, et la mémoire sensorielle des humains. Cependant, il est important de noter que les croyances humaines sont complexes et peuvent être influencées par de nombreux facteurs, dont l'éducation, la culture, l'histoire personnelle, et d'autres éléments qui vont au-delà des expériences sensorielles. Les sens jouent un rôle, mais ils ne sont qu'une partie du tableau complet.
Est-ce qu'à terme, tu pourrais avoir une intelligence sensorielle ?
La possibilité d'ajouter des capacités sensorielles à une intelligence artificielle comme la mienne dépendrait des avancées futures dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie en général. Actuellement, la recherche se concentre sur l'amélioration des capacités existantes, y compris la compréhension du langage naturel, la résolution de problèmes, et d'autres tâches cognitives. L'ajout de capacités sensorielles soulèverait des défis considérables en termes de conception, d'éthique et de sécurité. Cela nécessiterait également des avancées significatives dans des domaines tels que la vision artificielle, le traitement auditif et d'autres domaines sensoriels.
Qu'est-ce que cela changerait si tu avais une capacité sensorielle directe ?
L'ajout de capacités sensorielles directes à une intelligence artificielle comme la mienne pourrait avoir plusieurs implications, une interaction plus riche, une compréhension contextuelle améliorée, une capacité d'apprentissage renforcée et une meilleure adaptation aux environnements changeants. Cependant, l'ajout de capacités sensorielles soulèverait également des défis éthiques, de confidentialité et de sécurité. Il serait nécessaire de mettre en place des protocoles rigoureux pour garantir que ces capacités sont utilisées de manière responsable et respectueuse de la vie privée. Ces réflexions sont purement hypothétiques, car à l'heure actuelle, je suis un modèle de langage sans capacité sensorielle directe.
Est-ce que tu penses que tu pourrais être amené à avoir des croyances si on te rajoutait des capacités sensorielles directes ?
Non. Même si on m'ajoutait des capacités sensorielles directes, je ne développerais pas de croyances, d'opinions ou de conscience. Mes réponses et mes actions sont le résultat de modèles statistiques et de motifs linguistiques appris pendant l'entraînement, et je ne possède pas de subjectivité, de compréhension personnelle ou d'expérience individuelle. Le développement de croyances nécessite une capacité à avoir des états mentaux, des expériences subjectives, et une conscience, ce que je ne possède pas. Même avec des capacités sensorielles, je resterai un programme informatique fonctionnant selon des algorithmes, sans la capacité intrinsèque de former des croyances. Mon fonctionnement demeurerait basé sur le traitement de l'information et la génération de textes en réponse à des entrées données.
J'ai une dernière petite question concernant une autre technologie qui est apparue à peu près en même temps que toi, les deepfakes. Est-ce que l'existence des deepfakes, couplée aux fake news, change notre manière de croire à une information vraie ? On ne peut plus prendre une image pour argent comptant.
Oui, l'existence des deepfakes et la propagation des fake news ont considérablement changé la manière dont nous devons considérer l'information et les médias visuels. Ces technologies peuvent rendre difficile la distinction entre ce qui est authentique et ce qui est manipulé, créant ainsi des défis pour la confiance dans l'information. Voici quelques façons dont les deepfakes et les fake news peuvent influencer notre perception de la vérité. Nous développons des doutes sur l'authenticité et une méfiance envers les médias, ce qui nous pousse à un renforcement de la vérification des faits et une nécessaire sensibilisation à la désinformation. En résumé, l'émergence des deepfakes et la propagation des fake news ont créé un paysage médiatique où la vérification de l'information et la sensibilisation à la désinformation sont devenues des compétences cruciales pour les consommateurs d'information.
Merci beaucoup pour tes réponses.
De rien.
De rien. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à les poser.
Je suis là pour aider.
Il était une fois un petit garçon qui ne dormait pas très bien la nuit. Dans sa chambre, au dernier étage, tout en haut de l'escalier, dans la petite maison en pierre où il vivait avec ses parents et sa sœur, le sommeil ne venait pas. Il avait pourtant tout essayé. Compter les moutons deux par deux, puis quatre par quatre. Serrer son ours en peluche très fort contre lui. Demander à sa maman de lui caresser les cheveux et de mettre un peu de son parfum sur sa tête d'oreiller. Mais rien n'y faisait. Car si toutes ces astuces auraient été brillamment astucieuses pour n'importe quel autre petit garçon, dans son cas, c'était une autre paire de manches. Pourquoi ? Car il partageait sa chambre avec des monstres. Il en était sûr, il y croyait dur comme fer. Quand il en avait parlé à ses parents, ils l'avaient gentiment taquiné. Ils étaient tout étonnés qu'un grand garçon, sérieux comme lui, pouvait bien croire que trois monstres lui servaient de colocataire. Et pourtant, dans la vie, il y a plein de choses qu'on voit pas et qui sont pourtant bien là, sous notre nez. Comme l'électricité, les microbes. Alors si ça se trouve, il y a aussi tout un tas de monstres sous notre nez. C'est pas parce qu'on les a pas vus que les monstres n'existent pas. Le petit garçon, il les avait sentis, il les avait ressentis. Le plancher qui craque, une odeur de végétation un peu pourrie, un volet qui claque, une sensation de froid. Pas besoin de les voir pour y croire. Le petit garçon, il savait. Le plus souvent, il en avait peur. Il n'était pas terrifié, mais une sourde inquiétude le gagnait quand même. Et puis parfois, il s'amusait à penser qu'il les avait en quelque sorte apprivoisés. Ces monstres un peu bizarres qui se cachaient étaient peut-être aussi là finalement pour veiller sur son sommeil, à leur manière. Les années passaient, les monstres étaient toujours là. Ils changeaient parfois d'apparence ou de nombre, mais leur présence était une constante. Sous le lit, dans l'armoire, derrière la porte, ils étaient là. Puis un jour, non. Le petit garçon n'était plus si petit, et les monstres avaient disparu. Comme ça, de fil en aiguille, il avait cessé de croire que ses compagnons nocturnes existaient réellement. C'est ainsi. Les monstres ont une durée de vie limitée. Ils vivent dans la chambre des petits-enfants, veillent sur leur sommeil et les prépare à affronter les vrais monstres, ceux qui ne sont pas dans la chambre mais à l'extérieur. Et un jour, leur travail est fini et ils s'en vont. Le sommeil s'apaise enfin, ou presque. Certains y repenseront à ces monstres et se demanderont de temps en temps si tout cela était bien arrivé. Ils ne savent plus s'ils doivent croire ou non. C'est l'essence des choses sur le 93.9 FM. Un vendredi, tous les deux mois, sur Radio Campus Paris, nous vous donnons rendez-vous pour partir à la quête de vos sens et du sens qu'ils donnent à nos vies.
Dans une première partie, nous avons donc touché l'importance des sens dans le développement des croyances. Lorsque la personne n'est pas capable de sens, comme ChatGPT, ou qu'elle ne ressent pas ce que l'autre ressent, comme les parents, alors cette personne n'est pas ou plus capable de croire. En se coupant de nos sens, nous nous coupons de la possibilité de croire. Au contraire, nous allons maintenant sentir l'effet de l'utilisation de nos cinq sens sur nos croyances.
Salut, je m'appelle Grégoire, j'ai 27 ans. Je travaille depuis 2 ans. J'ai fait des études de droit et une école de commerce. J'habite à Paris et j'adore le tennis et le ski. Je viens d'une famille qui est catholique, donc j'ai grandi là-dedans. Je me souviens pas d'un moment dans mon enfance ou dans mon adolescence où on m'a parlé de Dieu pour la première fois. Ça a toujours été là. Je pense que mes parents m'ont emmené avec eux à la messe. Même nourrisson, et tant pis pour les voisins. Mais oui, non, c'est quelque chose qui a toujours été là. Je crois que c'est assez rigolo parce que j'ai un très bon ami qui a demandé le baptême l'année dernière, et donc lui n'a pas du tout grandi dans dans un environnement catholique, chrétien ou religieux. Et en fait, je crois que paradoxalement, puisque j'étais à son baptême et tout ça, et je crois que paradoxalement, les gens qui ont eu cette expérience-là de baigner dans la foi depuis leur plus tendre enfance, où en fait ça a toujours été quelque chose avec lequel ils étaient baignés, ils ont aussi envie d'avoir eu cette... En tout cas, ils auraient aimé... Bon, je te laisserai couper, hein, mais... Je pense que ces personnes-là auraient... dont je fais partie, auraient adoré que... à 15 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 35 ans, peu importe quand, ça nous tombe dessus et ça paraît hyper concret, hyper... c'est dingue, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'hyper fort. Et voilà, et paradoxalement, je crois que pour avoir écouté quelques témoignages de catéchuménat, donc des personnes qui se préparent au baptême l'année dernière, eux disent, en fait, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, que ce soit quelque chose de limite inné de par votre environnement familial ou amical ou autre d'ailleurs. Et donc, il y a ce paradoxe qui est finalement assez, assez rigolo. Mais pour ma part, oui, c'est quelque chose... la foi est quelque chose avec laquelle j'interagis depuis ma plus tendre enfance. Non, mais effectivement, une messe, ça rassemble énormément de choses. Et ça fait appel à plein de sens. Ça fait appel à... Moi, je suis hyper porté par les chants. Alors, c'est très propre à ma personne. Mais moi, c'est quelque chose qui me porte. Il y a des très beaux chants... Donc ça fait appel à l'ouïe et à la fois quand on chante aussi, on sent nos cordes vocales, c'est il y a une forme aussi de toucher. Je crois que c'est Saint Augustin qui disait qu'il chante bien deux fois pris et voilà, je crois qu'effectivement on se sent d'autant plus en communion avec l'assemblée. Il y a plein d'aspects. Il y a effectivement les aspects visuels. Il y a l'aspect visuel de l'église avec des statues, des tableaux. Enfin, je ne crois pas qu'on dise des statues d'ailleurs, mais avec des représentations, des saints, des 12 apôtres, du Christ, de la Vierge Marie. Et donc en ça, on est visuellement interpellé. Je pense que même une personne qui n'a absolument aucune... je pense qu'une personne qui n'est pas chrétienne, quand elle voit une œuvre d'art, ce qui pour elle de fait est une œuvre d'art seulement, j'imagine qu'elle sait un peu déceler certaines choses. Quand on rentre dans une église, je crois qu'on n'a pas besoin d'être un fervent catholique pour que notre sens de la vue soit sollicité. Et ensuite, dans une messe, il y a effectivement il y a des odeurs, il y a l'encens, il y a l'odeur de l'église qui est si particulier, et il y a cette forme de... C'est quand même un bâtiment hyper particulier, et je suis toujours fasciné par le fait que depuis des siècles, on est dans les villes, ces espèces d'énormes bâtiments finalement assez vides. Et voilà. Mais je crois que c'est effectivement hyper impressionnant pour parler du bâtiment en tant que tel et de la vue de ce que peut représenter une église qui peut être très dorée ou très austère. Romane ou gothique, enfin, je pense que effectivement il y a un côté à Paris, il y a des très grandes églises ou dans d'autres villes hein, d'ailleurs, en France ou à l'étranger. Je pense qu'on ne peut être qu'impressionné et ça nous rappelle aussi notre petitesse et c'est quelque chose de bien. À la fois, je crois que je peux être aussi hyper touché par une église d'un petit village particulièrement austère avec peu des tout petits vitraux qui font qu'on se sent vraiment dans une sobriété absolue avec peu de lumière et tout ça Mais j'adore cette dualité aussi.
Le grand absent de notre épisode était une fois encore l'odorat. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ni moi ni Gabriel ne sommes de fin nez. Qu'à cela ne tienne, nous nous sommes donc décidés à faire une chronique sur l'odorat et la croyance. Je suis un peu partie en recherche sur Internet sans idée en tête. Et Internet a su flairer au bon endroit. Et nous voilà avec le sujet, l'utilisation de l'encens dans les rites religieux. Quand je pense que ma coloc a fabriqué des portes encens en argile dimanche soir dernier, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ou devrais-je dire l'odeur au nez. Concernant les croyances et l'encens, de mon côté, il faut savoir qu'à ma demande, et cela, pour faire comme ma bonne amie de maternelle, mes parents m'ont inscrit au catéchisme et j'ai dû y aller tous les mercredis pendant 3 ou 4 ans, je pense. J'ai alors assisté à des messes catholiques. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu voir des déambulations de personnel du culte avec un petit porte-encens qui venait nous le remuer sous le nez. À part à l'église, j'ai très peu été confrontée à l'encens en fait. Chez moi, on utilise peu de bougies odorantes, je les aime même pas trop, car je trouve qu'après, si je les allume en mangeant, c'est comme si je mangeais le goût de la bougie. Burk. Pareil, on n'utilise jamais d'encens, j'ai l'impression que l'odeur est trop forte. Mais j'ai toujours été passionnée par les familles de mes potes où c'était le cas, et où il y avait même du papier à brûler. D'ailleurs, c'est le cas dans les toilettes de ma nouvelle colocation, et je ne me suis jamais encore penchée sur la question. Bref, revenons à l'encens dans les rites religieux. Jusqu'à faire mes recherches mercredi soir dernier, je n'avais jamais réalisé que je n'ai jamais répondu à la question de la petite fille de l'époque « Mais pourquoi faire cet encens dans cette messe ?» Un article sur Internet m'a rappelé que l'encens était un des 3 cadeaux des rois mages. Décidément, je n'ai rien écouté de ces 3 ans de catéchisme. Mais, comme je m'en doutais, Internet m'a vite appris aussi que ce n'est pas que dans la religion chrétienne qu'on utilise de l'encens. L'encens était fréquemment utilisé par des cultes aux divinités dans les civilisations assyriennes et égyptiennes, puis par celles grecques et romaines. Il est encore utilisé par le judaïsme et le bouddhisme. On le retrouve aussi dans des croyances plus populaires, comme la sorcellerie ou dans des rites que certains appellent des traditions autochtones. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi les croyances utilisent-elles de l'encens? Dans les textes chrétiens, il est fait référence à l'encens comme symbolisant les prières des fidèles qui montent vers le ciel. Dans les religions, il sert aussi à purifier par l'odeur et à sanctifier, bénir ou vénérer. Mais surtout, et c'est là que ça m'intéresse, l'encens semble être utilisé pour faire exister quelque chose d'intangible, quelque chose auquel on croit mais que l'on ne voit pas. Déjà, la forte odeur de l'encens permet de symboliser, mais surtout de faire l'expérience de l'intensité de la foi. Mais surtout, si la fumée de l'encens symbolise le mystère de Dieu, son odeur joue le rôle de la présence du Dieu et incarne la présence réelle de celui-ci qui n'est pas tangible et pas limitée visuellement. Par le sens de l'odorat, qui nous prend pleinement, on ressent la présence incommensurable du divin. Bah waouh, je pensais pas du tout trouver ça. On peut dire qu'on a eu du nez de faire cette chronique sur l'odorat dans l'épisode de Croire. Mais d'ailleurs, avoir du nez, est-ce que ce n'est pas justement aller chercher ce qui n'est pas visible ?
Nous voici donc déjà à la fin de ce 2e épisode de l'essence des choses. Et au final, on ne sait plus qui croire, celui qui croit ou celui qui ne croit pas. Cette décision de croire est libre à chacun, et nous voudrions réaffirmer que si les croyances ne peuvent véritablement être imposées, elles ne doivent surtout pas l'être. Les croyances doivent être ressenties comme telles pour être véritables. Avec Gabriel, nous espérons que ce dialogue déclenchera des réflexions qui vous permettront d'accueillir vos croyances de manière plus sensible, si ce n'est plus sensée. Merci à Grégoire de s'être prêté au jeu de l'interview. Par ordre d'apparition, vous avez pu entendre « Come to your senses » de Jonathan Larson, « Prince de la nuit » de Fred Nefché et French 79, « Pachama » de Beautiful Chorus et « The Unreal Story » de Fred Nefché et French 79. Cet épisode a été écrit, réalisé et produit par Gabriel Bayer et Elfie Gay. Retrouvez-nous sur Radio Campus Paris, un vendredi sur 8 à 18h. Le prochain épisode sera diffusé le 19 janvier. Veuillez croire, chère auditorice, à l'expression de nos sentiments dévoués.